Bienvenue dans Adolescence, le podcast qui nous apprend ce que l'on n'a pas appris à l'école. Je suis Louise Aubéry et j'ai souhaité demander aux meilleurs experts de m'aider à affronter la vie d'adulte. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir la philosophe Sophie Galabru, avec qui l'on réfléchit autour de la question « Qu'est-ce que faire famille et comment le faire au mieux ?» Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous taguer dans vos posts et dans vos stories @franceinter et @louiseaubéry. Et je vous souhaite une très bonne écoute.
Je me suis toujours demandé comment je serais une fois adulte.
Je veux parler à un adulte!
Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants.
Sois jeune et tais-toi.
Être un adulte, définition.
Rentre chez toi et grandis.
Pour moi, adulte, ça veut dire responsable de ses actes.
Ça, je dirais de grandir.
Le problème est qu'on fait venir des enfants au monde sans leur consentement. Cette vérité qui dérange, on la doit au philosophe David Benatar. Et elle sous-tend une question inconfortable, mais fondamentale. Pour qui on se prend à imposer la vie à autrui? Quelles sont les réelles motivations qui nous poussent à faire un enfant? Et comment s'assurer qu'elles soient suffisantes pour prendre la responsabilité de la vie d'un autre être humain? En fait, je crois que la vraie question que je me pose, c'est pourquoi veut-on autant faire des enfants alors qu'on l'est encore souvent nous-mêmes? Par amour? C'est la raison qui revient le plus. Comment expliquer alors que 51 000 enfants sont victimes de violences chaque année, que près de 10% de la population française dit avoir subi un inceste, ou, comme j'ai pu l'observer encore plus fréquemment autour de moi, des parents qui reprochent à leurs enfants qu'ils ne sont pas comme ils auraient aimé qu'ils soient? Est-ce vraiment de l'amour? Sous prétexte de la puissance de cet amour familial, il est devenu comme intouchable, incritiquable. On peut critiquer son boulot, on peut critiquer son collègue, on peut critiquer son pays. Mais apportez un regard critique sur votre cellule familiale et vous serez immédiatement jugé et méprisé. La critique n'est-elle pourtant pas le meilleur moyen de remettre en question ses certitudes? Et n'est-il pas temps qu'on le fasse pour la famille? Sinon, on pourra toujours faire appel à Elon Musk, qui semble l'avoir déjà fait, avec 14 enfants nés de 4 mères différentes, pourtant fervent défenseur d'un schéma traditionnel familial et conservateur. Il semblerait qu'il ait lui-même dû remettre en question ses certitudes. Bonjour Sophie Galabru.
Bonjour.
Vous avez écrit sur le sujet de la famille. Est-ce que vous vous souvenez de la première question que vous vous êtes posée par rapport à la cellule familiale, par rapport à l'existence de la famille?
Je me suis demandé pourquoi on attendait autant de la famille et pourquoi il pouvait y avoir un écart si important avec la réalité. Réalité parfois décevante, sinon bien pire, violente.
Est-ce que pour vous, il y a des idées reçues qui persistent encore autour de l'imaginaire familial, qui nous desservent plus qu'elles ne nous servent?
Oui, je pense qu'il y a au moins deux idées. Il y en a une qui commence à être très remise en question grâce à l'anthropologie, c'est qu'il y aurait un seul modèle naturel. Par exemple, la famille nucléaire. Or, on se rend compte, grâce à l'anthropologie surtout, l'ethnologie, qu'en fait, dans l'espace et dans le temps, il y a plein de façons de fabriquer la famille. Même en France, il y a eu plein de façons de la fabriquer. Et donc, il n'y a pas un modèle plus favorable à la cellule familiale et à la pérennité d'une vie de famille. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième, ce serait de penser que parce qu'on fait des enfants, on est parents, on a une famille, et que finalement la famille n'exige pas un travail, une fabrication, une vigilance, une remise en question, etc. Et l'idée aussi que parce qu'on est en famille, c'est la troisième idée, il y a forcément de l'amour. Pas forcément. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a d'autres notions aussi à mobiliser, comme la notion de respect ou de responsabilité. L'amour en fait, enfin, fait partie de ces notions qu'on peut attendre, mais ça n'est qu'une notion parmi d'autres types de liens qui peuvent exister.
Ce qui me questionne, c'est le fait que on excuse beaucoup de choses par amour. Je ne sais pas si on vous le disait quand vous étiez enfant, mais on me répétait beaucoup, de mes grands-parents ou de mes proches, « Oh, mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils t'aiment, c'est parce qu'ils veulent ton bien. » Et je trouve que c'est pas, voilà, toujours forcément le cas. Donc je me demande pourquoi invoquer l'amour justifierait finalement certains comportements.
Bah oui, mais le « c'est pour ton bien », d'ailleurs, c'est le titre d'un livre d'une très grande psychanalyste, Alice Miller, « C'est pour ton bien », c'est ce qu'elle appelle la pédagogie noire. C'est aussi une façon de justifier la maltraitance, voire la violence, au nom du bien ou de la bienveillance de l'enfant. Et c'est des stratégies manipulatoires. Alors, parfois, c'est, comment dire, en toute inconscience, en toute naïveté, il y a des parents qui pensent vraiment faire le bien de l'enfant et qui, au nom de ce bien, justifie leur grande autoritarisme, voire leur violence. Mmh. Il y en a qui sont quand même assez conscients que ça n'est que de la violence et c'est des stratagèmes manipulatoires. Les deux sont possibles. Et après, il y a la question de l'amour. L'amour pourrait tout justifier, en effet, alors que la base pour que l'amour puisse éclore, je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est à mon avis de l'estime et du respect. Et s'il n'y a pas cela, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un amour, en tout cas d'un amour sain ou véritablement sérieux. Confondre familiarité, irrespect, violence et amour, c'est quand même, à mon avis, s'égarer sur ce qu'est l'amour, qui est la recherche du bien-être de l'autre.
Pourquoi est-ce que c'est aussi tabou de critiquer sa famille ?
Bah parce que pendant très longtemps, la famille a été une valeur numéro une valeur sacrée même. C'était d'ailleurs la cellule de base, mais c'est toujours la cellule de base de la société. Là où on accueille la vie, où on élève, on instruit les futurs citoyens et ceux qui vont ensuite être soumis à des cellules sociales plus grandes, et même ultimement l'État. Donc ça paraissait être un passage très crucial pour introniser à la vie sociale et préparer les futurs citoyens. Et puis avec l'emprise judéo-chrétienne, la famille aussi était la cellule de la fécondité et donc de la reproduction, de là où circule la vie et où elle se reproduit, elle se perpétue. Donc il y avait cette valeur sacrée autour de la famille qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui.
En effet, cette valeur sacrée n'existe plus vraiment. Cependant, je trouve qu'il y a encore toujours cette forme d'impunité de la famille, ou en tout cas vraiment le fait de ne pouvoir remettre en question l'éducation qu'on a reçue, de se voir accusé potentiellement d'irrespect. Ou, voilà, moi, j'ai déjà pu être critique de certaines parties de mon éducation. Et c'est vrai que tout de suite en face, c'est comme des boucliers. Oh, mais t'es dur quand même avec tes parents. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Tu t'en rendras compte plus tard. Non, mais OK, mais en quoi ça invalide le fait que j'ai le droit de remettre en question ? J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui vraiment une difficulté à remettre en question l'autorité parentale ou l'éducation qui nous a été donnée.
Oui, c'est vrai. La famille est quand même toujours auréolée d'une présomption d'innocence.
Ouais, exactement.
Ou une présomption d'amour, de bienveillance, alors qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les familles. Et comme le rappellent quand même les chiffres, rien que l'INSEE en 2019, son rapport est assez accablant. 44% des violences dans toute la France, les violences physiques ont lieu dans la famille. Ce qui permet quand même de dire que c'est un lieu qui n'est pas spontanément bienveillant, amour, respect, soins et protection. Donc, mais les gens ont besoin de croire, sans doute aussi, que cette cellule, cette micro-société est forcément à l'abri des violences, des injustices qu'on trouve traditionnellement et quotidiennement dans la vie. C'est peut-être une façon aussi de se rassurer psychologiquement, d'être dans ce déni de la réalité. C'est trop incroyable et sidérant de penser que ce lieu qui est censé nous accueillir, prendre soin de nous, nous élever, puisse être le lieu qui peut au contraire abîmer, voire complètement détruire. Ça paraît complètement fou. Donc parfois par déni de réalité, pour se rassurer, pour préserver cette valeur, les gens n'arrivent pas encore à admettre ça. Puis parfois il y a aussi une forme d'autoritarisme des plus âgés qui ne supportent pas par, on appelle ça la discrimination agiste, que les plus jeunes remettent en question leur pouvoir, la hiérarchie, parce que la critique, c'est ça, l'exercice critique des plus vieux, des ancêtres, des aïeux, de ses parents, c'est de leur dire « moi aussi j'ai du pouvoir aujourd'hui », et celui de prendre de la distance, de vous critiquer. Et parfois, ça peut être un sujet de crispation et de peur. Mmh. Les gens ont peur de perdre aussi leur pouvoir.
Ouais. Qu'est-ce qui justifie la primauté du lien du sang ? Je ne sais pas depuis combien de temps, finalement, c'est le cas. J'ai trouvé ça hyper intéressant que vous citiez dans votre livre la vision de la République de Platon, où finalement, il y aurait une forme de communisme
familial,
où une fois qu'on donnerait naissance aux enfants, ils appartiendraient à la cité et ça éviterait finalement les écueils de tel ou tel parent. Mais c'est vrai que j'ai pu observer autour de moi, et peut-être moi-même le faire, on tolère beaucoup plus à notre sang, ce qu'on tolérerait des autres.
Oui.
Et je me demande dans quelle mesure c'est noble. Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à l'anoblir en disant voilà, regarde ce qu'il ou elle a été prêt à faire pour son frère, sa sœur, ses parents. Et voilà, peut-être parfois, c'est des personnes qui ne nous veulent même pas forcément du bien, mais comme c'est des personnes de notre famille, Voilà, on va vraiment se donner dans des niveaux qu'on ne donnerait pas autrement.
Oui, c'est vrai qu'il y a une sacralisation encore du lien de sang. Tout ce que j'ai pu en lire, notamment dans l'histoire, c'est qu'à partir du XIIe siècle, il y a des grandes dynasties qui commencent à établir des arbres généalogiques, des filiations, et donc à commencer à avoir une fixation sur le sang, par souci donc de noblesse, de préservation de la pureté d'une maison, d'une haute maison. Et puis, petit à petit, la démocratisation de la science, les découvertes sur la génétique font qu'on comprend que le sang est en effet le véhicule d'un patrimoine génétique et que partager son sang, c'est partager, donc, c'est hériter de certains gènes, parfois de certaines maladies, c'est comprendre aussi d'où on vient, de quoi est fait notre corps, quelles sont ses potentialités, ce qui est intéressant. Pourquoi il y a une fixation sur ce matériel génétique, ce patrimoine génétique ? Il y a sûrement aussi des raisons psychologiques derrière. Et c'est vrai que j'ai souvent entendu des gens me dire dans des rencontres littéraires « Je ne pourrais pas supporter d'un enfant adopté peut-être ce que je supporterais d'un enfant qui est de mon sang. » C'est-à-dire que si j'ai des problèmes, des conflits ou des choses qui me surprennent, qui me déçoivent ou qui sont difficiles à gérer, ça serait plus acceptable, plus tolérable, j'aurais peut-être plus de patience avec un enfant qui est de mon sang. Ce qui est particulier, ça veut donc dire que le sang est le support d'un fantasme narcissique. Si c'est mon sang, c'est un peu moi. Et si c'est un peu moi, ça me ressemble, ça m'est plus proche, ça m'est affilié, apparenté de manière naturelle. Et donc, il y a quelque chose d'irréductible. C'est vrai que le lien de sang ne peut jamais se défaire une fois qu'il est établi. Il y a une matérialité qui rend ce lien irréductible, qu'on ne peut pas complètement couper. Et donc peut-être ça contraint, ça force les gens à admettre ces rapports ou à se sentir forcément très liés, puisque ça ne peut pas se défaire. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ça peut se défaire sur plein d'autres biais. Juridiquement, socialement, affectivement, ça peut être défait. Et il ne suffit pas du matériel sanguin et génétique pour faire un lien. Mais bizarrement, c'est un support narcissique, c'est-à-dire celui qui, à mon sens, me prolonge, me ressemble, et c'est irréductible et insécable. Donc, nous sommes embarqués dans la même galère et je suis forcée presque par la biologie à le penser. C'est peut-être rassurant aussi, d'une certaine façon.
Est-ce que c'est pas pour ça qu'on fait des enfants au final ? Alors, évidemment, je pense que c'est multifactoriel, mais je suis assez amusée parfois du discours qui peut émerger de différents cercles selon lequel les personnes qui veulent pas d'enfants sont égoïstes. Et je me suis toujours demandé, mais en quoi elles sont plus égoïstes que celles qui en veulent ? Parce que, enfin, finalement, si on veut un enfant, en vrai, c'est pas pour peupler la planète. Enfin, j'ai l'impression hein, que c'est parce qu'on veut voir à quoi on ressemble en mini, quoi. Donc, je sais pas si vous avez fait des recherches par rapport à ça, ce qui un peu pousse autant de gens, et d'un autre côté, tant mieux, hein, c'est ce qui nous permet de nous reproduire, mais qu'est-ce qui explique ça alors qu'au final, on sait même pas comment être parent ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que je trouve qu'il y a une crispation en ce moment très idéologique sur les no kids ou ceux qui... comment dire, essaye peut-être de combattre ce mouvement No Kids. Les No Kids vont dire nous sommes peut-être moins égoïstes que les autres parce que nous ne voulons pas surpeupler la planète, ou nous avons, comment dire, un souci écologique, ou nous assumons d'être des gens indépendants et libres qui ne voulons pas nous surcharger d'un enfant. Et donc nous n'allons peut-être pas être négligents ou violents ou mauvais parents. Et puis, les autres vont dire « Ouais, mais vous êtes égoïste parce que vous ne pensez pas à la perpétuation de l'espèce, vous ne pensez pas à la perpétuation d'une main-d'œuvre pour assurer vos retraites, ou vous ne voulez pas prendre soin, tout simplement, d'être à venir. » Et je trouve ça ridicule d'une part comme de l'autre. Ces accusations et ces culpabilisations n'ont aucun sens. Moi, là-dessus, je suis assez libérale. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils n'en veulent pas ou ils en veulent. Il y a plein de raisons en plus, comme vous dites, multifactorielles, conscientes et inconscientes. C'est trop délicat, je trouve. Avoir un enfant a quelque chose de fou, moi, je trouve. D'abord, c'est... Comment dire ? C'est de l'ordre du miracle et de la chance. C'est pas un projet qu'on peut avoir. Même si on le veut ou on le projette, on voit bien, il y a des parcours du combattant pour des couples, pour avoir un enfant. C'est pas si simple, parfois, pour certains couples. Donc, il y a quand même une part de chance inouïe pour avoir un enfant aussi en bonne santé. Et je trouve que il y a quelque chose du miracle et de la folie. Et donc, je peux comprendre des gens qui auraient peur de cette folie-là, comme de ceux qui veulent se lancer dans cette aventure. Il n'y a rien à en dire. Moralement parlant, c'est impossible, je trouve. Et on n'est plus dans des sociétés où on peut se permettre politiquement et moralement de forcer les gens ou les culpabiliser pour avoir des enfants ou ne pas en avoir, je trouve. L'enfant est de plus en plus devenu d'ailleurs un choix très personnel, avec le contrôle de la contraception et l'individualisme, le montée des droits des femmes. Ça paraît complètement aberrant dans nos sociétés occidentales et européennes de commencer à faire la morale sur ces sujets. Donc je trouve qu'il y a une régression des deux côtés, vraiment personnellement. Alors après, la question de savoir pourquoi on en fait, il y a des facteurs conscients et inconscients. Et je pense qu'il y a une part qui nous échappe. Il y en a qui veulent perpétuer la vie parce que voilà, c'est le goût, l'amour de la vie pousse à la reproduire sous cette forme-là. Après, il y en a qui se conforment aussi socialement voilà, aux conventions, aux normes socioculturelles de leur pays ou de leur famille ou de leur religion. Il y en a qui ont envie de voir à quoi ils vont ressembler en tout petit ou avec ce conjoint ou cette conjointe, qu'est-ce que ça va donner. Et donc, c'est une sorte de curiosité amoureuse, narcissique. Il y en a qui font des enfants aussi parfois pour se réparer, pour se combler. Il y a plein de raisons. Et moi, je crois que quand les raisons sont trop claires, ça me paraît un peu digne de soupçon parce que si on fait des enfants pour une bonne raison pour soi, oui, là, ça peut paraître égoïste et dangereux. Parce qu'un enfant, c'est un être libre, une créature complètement indépendante et à part de soi. Et il n'est pas du tout dit qu'elle nous répare, qu'elle nous prolonge, qu'elle nous satisfait, qu'elle va elle-même perpétuer la vie. On n'en sait rien. Donc, je crois qu'il n'y a pas de raison, et c'est très bien qu'il n'y en ait pas. Je pense que c'est une pulsion qui a lieu de manière assez mystérieuse. Et pour s'y lancer et y arriver, il faut de la folie.
Il faut de la folie pour donner la vie. Que faut-il pour être parent ?
Bah, pour il faut vraiment être fou aussi.
Mais dans le bon sens, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon parent,
en fait ? Je dis folie au sens, il ne faut pas être très rationnel. Parce qu'il y a toutes les bonnes raisons pour ne pas être parent. Je veux dire, la grossesse est encore un risque létal. J'ai lu il n'y a encore pas longtemps qu'un accouchement sur 10 000 peut se terminer par la mort. La mort en couche existe toujours, donc il y a un risque létal pour les femmes. Il y a parfois des grandes complications pour la femme enceinte, parfois néonatale pour les enfants. Il y a toujours un risque aussi parfois d'handicap ou de pathologie qui peut arriver. Effectivement, c'est bouleverser son emploi du temps, c'est négocier sur ses désirs et parfois en sacrifier. Il y a toutes les bonnes raisons statistiques pour ne pas en faire quelque part. Politique, sociale, etc. Donc ce que je veux dire quand je dis c'est une folie, c'est qu'il faut forcément avoir une forme d'irrationalité, de passer au-delà de ces balances bénéfices-risques et de ces stats pour y aller. C'est en ça que je dis qu'il faut une folie.
Ouais.
Et pour être parent, qu'est-ce qu'il faut ? Je pense qu'il faut assumer ce désir ou cette pulsion d'enfant. Parce qu'il y en a aussi beaucoup, alors c'est plus souvent le cas chez les hommes, mais qui peuvent encore fuir durant la grossesse ou à l'accouchement. Donc je pense qu'au bout d'un moment, à partir du moment où on s'est lancé dans cette aventure-là, il faut être capable de l'assumer d'une façon ou d'une autre. L'assumer, donc ça veut dire donner du soin à son enfant, de la sécurité, du respect. Il y a au moins ces trois choses-là, et je ne parle pas d'amour. Hein. C'est simplement honorer ses responsabilités, qui sont d'ailleurs rappelées quand même par le code de la famille et le code civil, quoi. Bienveillance, sécurité, soin. C'est le minimum. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas son enfant, une fois qu'on s'est engagé à en avoir un, je pense qu'il faut assumer ces trois devoirs-là.
Qu'est-ce que tu observes récemment de plus en plus comme écueils qui peuvent menacer peut-être le bien-être d'une famille ?
Ce qui a l'air de fragiliser beaucoup, c'est quand une femme carriériste, par exemple, c'est-à-dire qui aime travailler, qui a développé sa carrière et qui voudrait continuer à le faire, ne le peut pas parce que des choix sont faits de sacrifier sa carrière pour suivre son conjoint, notamment les couples hétérosexuels, un homme qui a le plus gros salaire encore et qui donc, je ne sais pas, pour honorer une mutation, fait le choix de partir, s'expatrier, il faut le suivre. Donc on va mettre fin à sa carrière, on va la mettre en stand-by, ou alors on va se mettre à temps partiel, voire on va arrêter pour élever les enfants. Ce genre de choix existe toujours beaucoup dans les couples hétérosexuels et ça peut parfois faire souffrir des femmes qui avaient envie de continuer de travailler ou de ne pas délaisser leur activité.
Il y a aussi...
Il y a le partage inégal des tâches, c'est-à-dire que c'est encore beaucoup les femmes qui s'occupent des tâches ménagères ou domestiques. qui sont pas en fait assez épaulés par leur conjoint ou par leur entreprise, qui, même si c'est illégal, peuvent tacitement les licencier après un congé maternité, qui ne vont pas les promouvoir parce que une femme qui a des enfants va être moins dispo, moins à fond pour sa boîte. Donc il y a tout ce genre d'a priori et de projection qui fait qu'on ne soutient pas les femmes dans leur congé maternité qui n'est pas assez long, dans le congé paternité qui n'est pas assez long, qui pourrait être plus partagé en France, et dans leur carrière, et dans les dispositifs pour les aider à être soulagées de la garde de leurs enfants pour pouvoir aussi développer leur activité. Donc dans le couple et dans le social, on ne soutient pas encore, je trouve, assez les mères. Donc ça, c'est un écueil énorme. À mon avis. Mais il y en a certainement d'autres. Mais ce mauvais partage des tâches et ce manque de soutien, on peut dire sociopolitique, autour de la maternité, de la parentalité, ça me paraît encore un problème.
Est-ce que, dans le cadre de vos recherches, vous avez observé des dénominateurs communs aux familles heureuses, ou en tout cas qui revendiquaient l'être ? Et des familles, au contraire, brisées, dysfonctionnelles, abîmées.
Je pense que les couples qui fonctionnent le mieux et dont les familles vont avoir une certaine pérennité, d'abord, c'est un couple qui a un assez grand optimisme relationnel, c'est-à-dire qui a confiance, d'abord, qui n'assimile pas l'amour au bien-être permanent et incessant. Ça, je pense que assimiler l'amour aux émotions de la joie, de la bonne surprise ou du bien-être total va forcément décevoir.
Mener à la déception, ouais.
L'amour, ça n'est pas cela, en tout cas dans la durée. Et quand on tisse un lien ou un attachement, comme dit Boris Cyrulnik dans son dernier livre, c'est pas le bien-être tout le temps. En fait, le bonheur partagé, c'est presque en pointillé. Et c'est logique, parce que deux personnes qui ont leur histoire, leur vécu, leur construction personnelle, leur travail, parfois leur moment de découragement, ne peuvent pas être tout le temps joyeuses, promptes à produire de la joie ou à l'accueillir. On n'est pas tout le temps dans cet état-là, d'abord soi-même, et alors pour être synchro avec l'autre, pour qu'il y ait une joie partagée ou un bien-être, en fait, ça demande presque un travail souterrain ou sous-jacent pour qu'il y ait de temps en temps des moments d'alignement parfait, d'harmonie, de bien-être. Mais c'est pas tout le temps. Déjà, faut accepter ça. Les gens qui l'acceptent bien volontiers, sans en avoir peur, sans en être inquiet, sont plus stables. Donc des gens qui ont développé leur vie personnelle, qui n'attendent pas tout de l'autre, qui sont conscients que l'amour, c'est pas un bien-être permanent, qui sont prêts à accepter des épreuves ou des conflits, en étant très optimistes, confiants sur le fait qu'ils vont les dépasser, qu'il y aura d'autres moments, d'autres phases. Je pense que ça, c'est énorme. Et le fait qu'ils aient cette confiance en eux et dans leur couple, malgré des épreuves, des conflits, ils le communiquent aussi à leur enfant. Donc, ils vont être des gens qui vont être sécurisants. Et ça, on le sait même à un niveau neuroscientifique, neurobiologique. Ce qui donne un style d'attachement sécure ou sécurisant et stable à un enfant, c'est des parents qui le sont eux-mêmes. Mmh. Alors ça, c'est donné évidemment dans les 3 premières années de la vie, mais tout n'est pas déterminé et figé. Et on peut le travailler, on peut se transformer pour être de plus en plus quelqu'un de confiant, de sécurisant, et qui va donc le communiquer à ses enfants. Donc en fait, je dirais l'optimisme en général est relationnel, la confiance en soi est une forme de croissance personnelle ou d'indépendance, c'est-à-dire on n'attend pas tout de l'autre ou de ses enfants. Ça peut conférer de la stabilité. Et ça permet de faire face, d'affronter des accidents de la vie, parfois des aléas.
Et dans le rapport aux enfants, parce que ce que j'entends, et là, mais c'est aussi l'essentiel, c'est comment le couple arrive à construire une famille saine. Finalement, une famille, c'est plus que le couple. C'est, voilà, en effet, tous les êtres vivants qui l'entourent. Et je me suis toujours demandé, en grandissant, en comparant beaucoup des amis, oh là là, je me souviens, ma meilleure amie, on pouvait petit déjeuner devant la télé, enfin, le truc que j'avais pas le droit du tout, donc c'est l'idée que je me faisais, quoi, de la famille heureuse. Je me demande s'il y a un peu de littérature sur ce sujet, sur ce qui permet, finalement, aux enfants également, d'être le plus épanoui possible au sein de la famille.
Je crois que c'est, alors comme je disais, les sécuriser, parce que les sécuriser leur permet aussi de gagner en autonomie. Quand un enfant sait que ses parents sont là pour lui, il peut développer plus d'insouciance et donc plus de créativité, d'imagination. Il va mieux se développer s'il est sécurisé et il a la possibilité d'être insouciant. Ça, c'est énorme.
Ouais.
Parce qu'en fait, l'espèce humaine a la plus grande immaturité dans toutes les espèces animales. C'est-à-dire qu'on est vraiment adulte, on a terminé notre croissance à 25 ans. Et ce qui est extrêmement tardif par rapport à toutes les autres espèces. Ça s'appelle la néoténie en biologie. C'est-à-dire qu'on est les êtres les plus immatures et les plus longtemps, mais aussi parce qu'on a un système cérébral, un cerveau, énormément de connexions à construire, et ça prend beaucoup de temps. Mais donc, on a aussi besoin, surtout les enfants, d'être très sécurisés, pris en charge pour avoir cette insouciance qui permet de développer au mieux toutes nos facultés, de faire toutes ces connexions. Donc, un enfant qui est préservé, ça, c'est énorme, je trouve. Alors, bien sûr qu'il peut avoir une certaine liberté, mais aussi qu'il reçoit quand même un cadrage normatif, c'est important. C'est-à-dire un enfant qui aurait aucun cadrage, à qui on ne propose aucune norme, c'est-à-dire aucune règle, à qui on ne propose aucune vision du monde, quitte à ce qu'il s'y oppose un jour, hein, peut être un enfant extrêmement flottant, perdu et extrêmement anxieux. Et ça, je le vois en tant que prof aussi avec les ados. Quand on ne leur propose rien, pensant bien faire, peut-être en se disant on leur laisse un maximum de liberté, ils feront leur choix tout seuls, on se trompe et on s'égare, ils ont une certaine anxiété parce qu'ils ne savent pas se repérer. Donc ils ont besoin de balises intellectuelles, cognitives, psychologiques, ils ont besoin de règles, d'une vision du monde. Et c'est aussi par rapport à ça qu'ils pourront s'opposer à l'adolescence ou un peu plus tard. On ne peut pas se poser sans s'opposer. Mais il faut s'opposer à quelque chose. Et si vos parents vous ont rien proposé ou imposé un minimum, vous ne savez pas dans quelle direction aller par vous-même. Donc on a besoin de ce cadrage. Il faut aussi leur apprendre, à mon avis, à gérer la frustration. C'est l'apprentissage freudien du principe de réalité. Tes désirs ne peuvent pas être exaucés à la minute. L'autre peut te dire non. Tu ne peux pas tout avoir à l'instant ou des autres. Il faut apprendre à accepter cela. C'est extrêmement important. Donc le principe de réalité, de frustration, un cadrage normatif et une grande insouciance et beaucoup de sécurité pour développer toute la créativité, toutes les connexions qu'ils ont à mener. Je trouve que c'est très important, ces trois choses-là.
Et à l'inverse, qu'est-ce que vous avez observé comme écueil, parfois involontaire, dans les familles, qui nuisent au bien-être des enfants et qui, selon vous, est encore trop répandu ?
Ce que je remarque, y compris avec les ados, c'est des parents pensant bien faire, voulant le bien-être, la réussite de leurs enfants, qui vont projeter sur eux des scénarios de profession ou de vocation, qui ne veulent pas entendre que leurs enfants ont envie d'aller dans une direction, et qui vont vouloir leur imposer un parcours d'études. Ouais. Et ça, c'est encore assez fréquent.
C'est vrai que c'est très fréquent.
Ce qui paraît dingue dans une société où on a l'impression qu'il y a de plus en plus de droits des enfants, de liberté des enfants. Mais en fait, et ça, ça a tendance à m'énerver, c'est que en fait, les parents peuvent lâcher tout cadre normatif, ne plus discuter avec leurs enfants, ne plus leur proposer une vision du monde. Par contre, ils vont être assez autoritaires sur des choses qui, là, pour le coup, demandent à être écoutées, accueillies, peut-être conseillées, mais pas abîmées ou altérées comme la vocation, les désirs qu'ils ont pour eux-mêmes, la projection qu'ils se font de leur métier à venir. Mmh. Voyez ? Donc, ils peuvent être absents, indisponibles ou tout leur offrir. On voit beaucoup ça. Par contre, une absence sur les conversations spirituelles, pas de vision du monde, finalement pas d'éducation, d'instruction, et imposer des choses par projection, par prolongement narcissique, pour se rassurer eux-mêmes.
Comment est-ce qu'on peut réussir à s'émanciper de sa cellule familiale quand celle-ci ne nous convient pas ?
C'est très dur. C'est très difficile puisque les enfants, en tant qu'enfants, on a eu besoin des gens qui se sont occupés de nous, le plus souvent nos parents. On en a besoin biologiquement, affectivement, économiquement. Ouais. Et même quand ils sont négligents, voire violents, on le voit aussi dans les incestes et les violences sexuelles, les enfants peuvent avoir besoin, n'osent pas dénoncer. D'abord, n'osent pas penser qu'ils sont agressés. Ils sont dans le déni d'une agression. S'ils comprennent qu'il y a une agression, ils n'osent pas dénoncer de peur de faire éclater la cellule familiale, d'être privés de ces êtres-là dont ils attendaient de l'amour et de la sécurité. Donc c'est extrêmement compliqué. Ils sont pris dans des besoins énormes, des conflits de loyauté, même ados, même jeunes adultes. En fait, ce qui dure très longtemps et ce qui emprisonne, c'est l'attente d'être aimé quand on ne l'a pas été ou pas très bien. L'attente d'être aimé, l'espoir que ça arrive un jour, alors que ça n'a pas été bien fait. Et les gens qui sont otages de cette attente ne peuvent pas s'émanciper.
Donc, comment s'en libérer ?
Le jour où on se dit, d'abord on accepte, même si c'est douloureux, et que c'est une blessure peut-être d'ego, je n'ai pas été vraiment bien aimée. Pas assez, pas du tout. Ou j'ai été négligée, abîmée, bon. Alors d'abord, il faut que je m'en protège. Continuer de m'exposer aux gens qui me blessent, ça n'est pas une bonne idée. Et je suis capable peut-être de me donner à moi-même ce dont j'ai besoin. Je pense que c'est là la bascule de l'émancipation et peut-être le passage vers l'âge adulte, en fait. C'est quand on se sent assez résilient pour avoir surmonté ses blessures et ne plus rien attendre des gens qui nous ont blessés pour se donner à soi-même de la confiance, de l'encouragement, de l'estime, du respect, de la bienveillance, une forme de pardon aussi. Quand on peut se donner tout ça, ou qu'on va aller chercher chez des bonnes personnes aussi, ça aide à partir. Mais si on les attend des mêmes personnes dont on a été dépendante et qui nous ont abîmées, on ne peut pas s'émanciper.
Comment votre vision de la famille a changé? Si je prends Sophie à 18 ans, jeune adulte au sens légal du terme, et aujourd'hui?
Je ne sais pas si elle a beaucoup changé. Hein. Moi, j'ai tout de suite quand même perçu que la famille était une chose très, très compliquée. Je continue de penser que c'est très complexe. En fait, la seule chose qui a pu changer, c'est que je pensais dans ma crise d'émancipation et ma fuite en avant pour fuir ma famille, je pensais qu'on pouvait se départir, se délester ou abandonner son héritage. Et j'ai quand même compris que c'est pas possible. Et on a beau ne pas vouloir ressembler à sa mère ou à son père, moi je suis obligée de concéder que je ressemble à ma mère, même si je ne veux pas. Et quelque part, je crois que plus on nie l'héritage et les ressemblances, plus on les accuse, plus on les porte. Et quand on accepte de se dire « bah oui, je viens de quelque part et j'ai reçu génétiquement, biologiquement, socialement, j'ai reçu des choses, des ressemblances », quelque part, je crois que c'est là où on se distancie, on en fait quelque chose à sa sauce ou de manière plus personnelle et distanciée. Mais plus on refoule et plus on fuit, plus on nie, plus je trouve qu'on accuse la ressemblance et la répétition. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué.
Ouais.
Goethe disait « on devient adulte quand on pardonne à ses parents ». Arriver à percevoir ses parents comme des gens à part entière qui ne sont pas que mes parents, qui ont eu leur propre histoire, et les regarder comme des personnages, ça donne une forme parfois de compassion, de distance. Ça aide aussi à s'émanciper.
Est-ce que vous pensez qu'on est condamné à reproduire les schémas ou les comportements de nos parents? Et
oui.
Comment, potentiellement, si on s'en rend compte,
oui.
On peut, si ces schémas-là ne sont pas sains, quand même s'en libérer?
On est très largement déterminé. Une étude montrait qu'il y avait une héritabilité des conflits en psychologie. C'est-à-dire que, statistiquement, les enfants de divorcés, par exemple, vont beaucoup plus divorcer dans leur vie. Évidemment, c'est-à-dire que quand on a des schémas au-dessus de nos têtes, ça dépend, il y a divorce et divorce. Il y a des gens qui divorcent mais qui arrivent à sécuriser leur enfant, qui restent plutôt en bonne entente, qui ne donnent pas de pessimisme relationnel à leurs enfants, mais il y en a qui ont vu des déchirements presque du tragique et qui ont l'impression que le moindre conflit veut dire explosion brutale, violence, séparation irrémédiable. Et ce sont des gens qui vont avoir peur du conflit, qui vont l'éviter, mais qui vont, en l'évitant, provoquer plus d'implosion, de violence, d'exaspération, et qui vont aussi plus vite vouloir partir. C'est-à-dire qu'à la moindre déception, à la moindre égratignure, au moindre conflit, vont prendre peur, être très pessimistes et partir. Alors que des gens qui ont vu au-dessus d'eux des conflits, des parents qui se disputaient, mais qui arrivent à se rabibocher, qui font des compromis, qui négocient entre eux, qui petit à petit se tolèrent davantage, s'acceptent avec leurs différences, ils ont quand même une vision, je pense, c'est logique, que le conflit ne détruit pas tout, qu'on peut le surmonter, qu'on peut en rire, qu'on peut le relativiser, qu'on peut s'aimer quand même, et qu'on peut garder confiance dans son partenaire, même s'il y a des choses qui parfois nous déplaisent, qu'on peut critiquer. Ils ont un modèle plus souple au-dessus d'eux. Et il y en a d'autres, et j'en faisais partie, qui ont une vision plus rigide et plus tragique. Mais on peut s'en départir aussi, avec un travail thérapeutique, ou en rencontrant quelqu'un qui a un style d'attachement, comme on dit, très sécurisé, qui n'a pas peur de s'engager, qui n'a pas peur de vous donner sa confiance, qui est à la hauteur de votre confiance, on apprend alors à découvrir qu'on peut s'attacher à quelqu'un, qu'on peut être vraiment aimé, qu'il y a des personnes qui sont stables près de vous. Donc, les autres, les amitiés, les thérapies s'aident.
Est-ce qu'il faut nécessairement, ou est-ce mieux, d'être en couple pour avoir un enfant?
Très personnellement, à l'heure actuelle, je pense que oui. Parce que je crois que c'est quand même, surtout un premier enfant, c'est un bouleversement psychologique, physique. ça peut être très effrayant et ça peut être fatigant. Je pense que quand on est accompagné, ça rend l'aventure, ce défi et ces inquiétudes un peu plus, peut-être un petit peu plus douces, je pense, d'être aidé et soutenu.
Ma question, c'était de savoir si c'était nécessairement avec quelqu'un dont on est amoureux. Parce que historiquement, c'était pas forcément le cas. Ça l'est devenu plus par normes sociales. Et aujourd'hui, c'est presque le seul schéma qui n'est pas contesté. Mais je me demandais si finalement c'était prouvé quoi, que c'était mieux pour l'enfant si les deux parents étaient amoureux ou si finalement si c'est un ami, voilà, quelqu'un de très proche avec qui peut-être justement il n'y aura pas ce tragique potentiellement derrière, cette déchirure. Est-ce que c'est moins louable ? Est-ce que c'est moins noble ?
Non, mais après, on a besoin, en tant qu'enfant, je crois qu'on aime bien savoir qu'on a été désiré quand même. Parfois, après, on peut se guérir du fait de ne pas avoir été désiré, ça se guérit aussi, mais de savoir qu'on a été voulu par deux êtres, ça a quelque chose de rassurant, de narcissisant. Je pense que ça peut faciliter sa raison d'être. Parce que je fais un tout petit retour en arrière sur l'émancipation, mais c'est ce que je disais, se donner sa propre raison d'être. Être capable d'être à soi-même sa propre raison d'être. C'est pas grave si mes parents m'aiment pas, ou pas assez, ou si... Je suis ma raison d'être. Ça, c'est devenir adulte. Bon. C'est vrai que les enfants, ils ont besoin de ressentir qu'ils sont la raison d'être de leurs parents. Ils m'ont voulu. D'ailleurs, un divorce est bouleversant. Voir des personnes se séparer l'est parce qu'on se dit ça fait vaciller cette raison d'être. Ils m'ont voulu ensemble, mais séparer, est-ce que j'ai une raison d'exister encore ? Inconsciemment, inconsciemment, un enfant peut se dire ça. Donc, il me semble que sentir que des êtres se sont aimés et vous ont voulu, c'est encore plus facilitant pour avoir un goût de vivre et un sentiment qu'on est fondé à exister. Ça peut avoir lieu entre des êtres amoureux ou des êtres qui sont des grands amis et qui montrent à l'enfant voilà, ce lien. Maintenant, il y a des parents solos et il suffit d'un parent solo qui a eu très envie de cet être qu'ils ont accueilli pour donner aussi envie de vivre. Donc je trouve juste d'un point de vue presque pragmatique que pour les adultes, c'est quand même beaucoup plus de soutien d'être ensemble. Et pour l'enfant, ça peut décupler l'impression qu'on a une raison d'exister maintenant. On peut y arriver en étant un parent solo.
Comme nous sommes en classe, nous allons faire une petite interro surprise. Donc l'idée, c'est que je vous partage certaines affirmations et vous me partagez si selon vous, elle est vraie ou fausse et pourquoi. L'amour familial est inconditionnel.
Faux. Il devrait l'être. Il ne l'est pas toujours.
La naissance nous donne automatiquement une dette envers nos parents.
Faux. Les parents ont une dette d'un point de vue moral et même juridique envers leurs enfants, tant qu'ils soient en tout cas mineurs.
Fonder une famille, c'est forcément avoir des enfants.
Faux. Pour moi, en tout cas, c'est prendre soin des êtres vulnérables, donc les personnes âgées, les animaux.
Environ 3 enfants par classe sont victimes d'inceste.
Vrai.
Il existe un bon modèle familial.
Faux. Non, non, on sait qu'il en existe plein. Il y a des parents solos, des familles nucléaires, des familles recomposées... On le voit, donc tous ces modèles peuvent très bien fonctionner.
Il faut parfois désapprendre ce qu'on a vécu en famille pour se reconstruire.
Oui, oui, oui. Parfois, il faut désapprendre des normes, des règles, des principes qui étaient simplement des stratagèmes manipulateurs, autoritaristes, violents. Il faut les désapprendre. Ou parfois, rien de tout cela, mais c'est juste qu'on a besoin d'être déloyaux et traîtres à une certaine éducation pour devenir qui on a envie de devenir.
Et enfin, couper les liens avec notre famille fait de nous une mauvaise personne.
Faux, évidemment. C'est très dur de le faire. Et les gens qui le font souvent ont eu très envie d'aimer leur famille, d'en être aimés. Et ils le font souvent
à contre-cœur.
À contre-cœur, à contre-cœur, ouais. Et c'est pas parce qu'ils coupent qu'ils sont totalement guéris, d'ailleurs.
On va terminer par quelques questions des élèves. Alors... L'idée, c'est, du coup, j'ai pioché des questions de ma communauté. Jusqu'où peut aller un beau-parent dans l'éducation d'un enfant ?
Jusqu'où, ça dépend de son conjoint. D'ailleurs, la loi le dit comme tel, c'est le parent de l'enfant qui peut donner la dose d'autorité qu'il estime nécessaire ou légitime à son conjoint sur son enfant. Donc, c'est aux parents, enfin, c'est aux conjoints, de voir ensemble la place du beau-parent, ouais. Jusqu'où il peut avoir de l'autorité sur l'enfant.
Comment redessiner les rôles dans une famille qui se recompose ? Et j'imagine comment trouver sa place, peut-être aussi
Je crois que ça passe là quand même par beaucoup de paroles et de conversations. Ça me paraît impossible de ne pas expliquer d'abord à ses enfants qu'il y a eu séparation, qu'il y a recomposition, quel rôle, quelle place est censé occuper le beau-parent, comment essayer de trouver une harmonie avec les autres enfants qui parfois ont des rythmes différents, d'autres stratégies éducatives, d'autres valeurs. Il faut essayer d'harmoniser tout ça par beaucoup de conversations pour rassurer tout le monde sur la place qu'il va avoir. Et sur le fait qu'on va essayer de s'écouter et de faire un travail de compromis pour que différentes histoires, différents âges, différents rythmes arrivent à s'harmoniser.
Peut-on aimer des membres de sa famille sans forcément les comprendre ?
Oui, absolument. Oui, je crois qu'on peut ne pas... Bah oui, parce qu'on a été accueillis dans une famille et on a accueilli des enfants sans les connaître. Mmh. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir complètement et on les aime d'abord. On les aime d'abord avant toute connaissance. Et en dépit, parfois, des déconvenues, et de la connaissance qu'on en prend. Mmh. Donc parfois, on est déçu, on est étonné, voire on ne comprend pas, mais on aime quand même.
Non seulement on n'est pas obligé de les comprendre, mais je pense même être d'accord. J'ai l'impression que parfois, il y a cet amalgame de si on n'est pas d'accord, il faut absolument le résoudre. Bah non, en fait, ça ne remet pas en question l'amour qu'on peut porter. Il faut savoir accepter les différents points de vue.
Ouais, moi je crois que ce qui est problématique, c'est quand on a un trouble de confiance en l'autre. C'est-à-dire, on a l'impression que ces idées ou ces valeurs vont venir menacer notre lien ou notre vie à venir ensemble. S'il y a un problème de confiance, alors là, oui, je pense qu'on n'arrive pas à vraiment rester ensemble. Mais si on a confiance en l'autre, même si on n'a pas complètement les mêmes valeurs ou les mêmes idées, ça se passe très bien. On peut s'accepter en étant différent.
Et enfin, si vous deviez conclure ce cours avec un enseignement ou une maxime que vous voulez partager aux élèves sur la famille, qui les aiderait peut-être à continuer la réflexion et à mieux vivre ensemble, ce serait quoi ?
Moi, je dirais que ce qui est important, c'est pas forcément d'aimer ou d'être aimé de ses parents, c'est que les parents donnent l'amour de la vie. Ce qui va devenir le plus important pour devenir quelqu'un, s'émanciper et être heureux de vivre, c'est cet amour de la vie. Donc, je vous souhaite que vos parents vous les donnent, sinon, essayez de vous le donner au plus vite et sans l'attendre d'eux. Et c'est ça qui donnera, en fait, une forme de souplesse, de compassion, de pardon ou sinon d'émancipation sans retour.
J'allais vous demander, pour terminer, ça signifie quoi pour vous être un adulte ? Mais j'ai l'impression que vous aviez déjà un peu répondu.
Oui, il y a plein de réponses possibles. Mais, biologiquement, c'est avoir atteint son stade de plein développement, on l'a dit, c'est quasiment 25 ans. C'est être capable, d'un point de vue psychologique, de se donner à soi-même sa propre raison d'être, sa propre estime de soi, sa propre confiance en soi, son propre désir de vivre. Goethe disait, c'est être capable de pardonner à ses parents. Après, il y a parfois de l'impardonnable, tout ça est relatif. Mais développer un regard distancié sur ses parents, ça me semble être un bon critère quand même. Puis il y en a qui pourraient dire, et ça, on le trouve presque en botanique, le végétal dit adulte, c'est celui qui est capable de fructifier lui-même. Donc, est-ce que c'est en devenant soi-même parent qu'on devient vraiment un adulte ? Peut-être. Moi, ça ne me dérange pas de le dire, il y a plein de façons.
Quand est-ce que vous êtes senti adulte ?
C'est peut-être quand d'abord, premier stade, j'ai quitté le foyer de ma mère, habité seule. Deuxième étape, c'est quand j'ai gagné mon premier salaire. Donc l'indépendance totale, où j'ai plus à demander absolument rien à mes parents. Troisième stade, c'est peut-être d'avoir été capable de créer une alliance engagée avec quelqu'un. J'ai trouvé que c'était une étape aussi dans la maturité. Mais il y a toujours une part de moi qui ne se sent pas complètement ou à 100% adulte. Pour des raisons que j'ignore. Peut-être parce que je n'ai pas d'enfant. Peut-être que d'avoir un enfant rend encore plus adulte. De faire fructifier ou d'accueillir la vie ou de la décupler, possiblement rend encore plus adulte, je trouve.
Merci beaucoup, Sophie.
Merci.
Adolescence est un podcast original de France Inter.